Couvert de sacrés voiles, sous ses couronnes, tas de perles et d'étoiles, sous tous ses grands exploits, prompt, terrible, fougueux, Sigismond est un monstre et Ladislas un gueux. Oh, dégradation du sceptre et de l'épée. Noire main de justice au cloaque trempé, devant l'hydre le seuil du temple ouvre ses gonds et le trône est un siège aux croupes des dragons. Siècle infâme, oh, grand ciel étoilé, que de honte, tout rampe, pas un front où le rouge ne monte, c'est égal, on se tait et nul ne fait un pas, oh, peuple, millions et millions de bras, toi que tous ces rois-là mangent tes déshonores, toi que leur majesté les vermines dévore, est-ce que tu n'as pas des ongles, vil troupeau, pour ces démangeaisons d'empereurs sur ta peau? Du reste, en voilà deux de prix, deux âmes telles que l'enfer même rêve étonné devant elles. Sigismond, Ladislas, vous étiez triomphant, splendide, inouï, prospère, étouffant. Le temps d'être puni arrive. À la bonne heure. Oh, le vautour, l'armoire et le caïman pleurent. J'en ris. Je trouve bon quand de certains instants, les princes, les heureux, les forts, les éclatants, les vainqueurs, les puissants, tous les bandits suprêmes, à leur front cerclé d'or, chargé de diadèmes, sentent l'âpre sueur de Josaphat monter. Il est doux de voir ceux qui hurlaient sangloter. La peur après le crime, après l'affreux, l'immonde, c'est bien. Dieu tout-puissant. Quoi ? Des maîtres du monde ? C'est ce que dans la cendre et sous mes pieds j'ai là. Quoi ? Ceci règne ? Quoi ? C'est un César ! Cela, en vérité, j'ai honte, et mon vieux cœur se serre de les voir se courber plus qu'il n'est nécessaire. Finissons. Ce qui vient de se passer ici, prince, veut un linceul proprement épaissi. Votre siècle commence à trouver vos altesses lourdes d'iniquités et de scélératesses. Il est là. C'est pourquoi je vous jette au monceau d'ordures que des ans emportent le ruisseau. Ces jeunes gens penchés sur cette jeune fille, j'ai vu cela. Dieu bon, sont-ils de la famille des vivants, respirant sous ton clair horizon? Sont-ce des hommes? Non, rien qu'à voir la façon dont vos lèvres touchent aux vierges endormies. Prince, on sent en vous des goules, des lamis, d'affreux êtres sortis des cercueils soulevés. Je vous rends à la nuit. Tout ce que vous avez de la face de l'homme est un mensonge infâme. Vous avez quelque bête effroyable au lieu d'âme. Sigismond, l'assassin, Ladislas, le forban, vous êtes des damnés en rupture de banc. Donc, lâchez les vivants et lâchez les empires. Hors du trône, tyran, à la tombe, vampire, chien du tombeau, voici le sépulcre, rentrez! Et son doigt est tourné vers le gouffre. Atterré, il s'agenouille. Oh, dit Sigismond, fantôme, ne nous emmène pas dans ton morne royaume. Nous t'obéirons. Dis, qu'exiges-tu de nous? Grâce. Et le roi dit, vois, nous sommes à genoux, spectre. Une vieille femme à la voix moins débile. La figure qui tient l'épée est immobile et se tait comme si cet être souverain tenait conseil en lui sous son linceul d'airain. Tout à coup, elle vend sa voix grave et hautaine. Prince, votre façon d'être lâche me gêne. Je suis homme et non spectre. Allons, debout, Mon bras est le bras d'un vivant. Il ne me convient pas de faire une autre peur que celle où j'ai coutume. Je suis Eviratnus.
Sigismond s'est dressé comme un dogue en arrêt. Ladislas bondit, hurle, ébauche une huée, grince des dents et rit. Et comme la nuée résume en un éclair le gouffre pluvieux, toute sa rage éclate en ce cri. C'est un vieux. Le grand chevalier dit, regardant l'un et l'autre, « Roi, un vieux de mon temps vaut deux jeunes du vôtre. Je vous défie à mort, laissant à votre choix d'attaquer l'un sans l'autre ou tous deux à la fois. » Pendant que, grave et froid, il déboucle sa chape, Ladislas, furtif, prend un couteau sur la nappe, se déchausse, et rapide et bras levés, pieds nus, il se glisse en rampant derrière Eviratnus. Mais Eviratnus sent qu'on l'attaque en arrière, se tourne, empoigne et tord la lame meurtrière, et sa main colossale étreint comme un étau le cou de Ladislas qui lâche le couteau. Dans l'œil du nain royal, on voit la mort paraître. Je devrais te couper les quatre membres, traître, et te laisser ramper sur tes moignons sanglants. Tiens, dit Eviratnus, meurs vite. Et sur ses flancs, le roi s'affaisse, et blême et l'œil, hors de l'orbite sans un cri, tant la mort formidable est subite, il expire. L'un meurt, mais l'autre s'est dressé. Le preux, en délaçant sa cuirasse, a posé sur un banc son épée et Sigismond l'a prise. Le jeune homme effrayant rit de la barbe grise, l'épée au poing joyeux, assassin rayonnant, croisant les bras, il crie « À mon tour, maintenant !» Et les noirs chevaliers, juges de cette lice, peuvent voir, à deux pas du fatal précipice, près de Mao qui semble un corps inanimé, Eviratnus sans armes et Sigismond armé. Le gouffre attend. Il faut que l'un des deux y tombe. Voyons un peu sur qui va se fermer la tombe, dit Sigismond. C'est toi le mort, c'est toi le chien. Le moment est funèbre. Eviratnus sent bien qu'avant qu'il ait choisi dans quelque armure un glaive, il aura dans les reins la pointe qui se lève. Que faire ? Tout à coup, sur Ladislas gisant, son œil tombe, il sourit, terrible, et se baissant de l'air d'un lion pris qui trouve son issue. Et, dit-il, je n'ai pas besoin d'autre massue. Et prenant au talon le cadavre du roi, il marche l'empereur qui chancelle d'effroi. Le cadavre est perdu, se renverse en arrière, et les bras disloqués font des gestes hideux. Lui crie. Arrangez-vous, prince, entre vous deux. Si l'enfer s'éteignait dans l'ombre universelle, on le rallumerait, certes, avec l'étincelle qu'on peut tirer d'un roi heurtant un empereur. Sigismond, sous ce mort qui plane, ivre d'horreur, recule sans la voir vers la lugubre trappe. Soudain, le mort s'abat et le cadavre frappe. Eviratnus est seul, et l'on entend le bruit de deux spectres tombant ensemble dans la nuit. Le preux se courbe au seuil du puits, son œil y plonge, et, calme, il dit tout bas comme parlant en songe, « C'est bien, disparaissez le tigre et le chacal. » Il reporte Mao sur le fauteuil du cal. Et de peur qu'au réveil, elle ne s'inquiète, il referme sans bruit l'infernale oubliette. Puis remet tout en ordre autour de lui, disant « La chose n'a pas fait une goutte de sang, c'est mieux. » Mais tout à coup, la cloche au loin éclate. Les monts gris sont bordés d'un long fil écarlate. Et voici que, portant des branches de genêt, le peuple vient chercher sa dame. L'aube naît, les hameaux sont en branle, on accourt. Et, vermeil, Mao, en même temps que l'aurore, s'éveille. Elle pense rêver et croit que le brouillard a pris ses jeunes gens pour en faire un vieillard. Et les cherche des yeux, les regrettant peut-être. Et Viradnus salue, et le vieux vaillant maître s'approchant d'elle avec un doux sourire ami. Madame, lui dit-il, avez-vous bien dormi?
La radiodiffusion française vous a présenté Les riches heures du poème légendaire. Une émission d'Alain Barou réalisée par le Club d'essai. Aujourd'hui, Eviradnus de Victor Hugo avec le concours d'Alain Cuny. Musique originale de Maurice Jarre, mise en onde d'Alain Barou.
Cette version radiophonique de Eviradnus de Victor Hugo a été diffusée la première fois le 25 août 1957 sur la chaîne nationale.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Ce qui longtemps ne fut connu que des initiés a fini par largement se savoir. Non seulement Victor Hugo a été l'un des plus grands poètes et romanciers de son siècle, mais il en a été aussi l'un des plus immenses dessinateurs. Si beaucoup parmi le grand et surtout jeune public ont pu le découvrir, c'est peut-être souvent par les livres de poche qui reproduisaient sur leur couverture quelques-uns de ces milliers de lavis et dessins de noir et de lumière. Sans doute n'a-t-on pas mesuré, écrit Annie Lebrun dans Les Arcs-en-Ciel du Noir, Victor Hugo, quelle puissance génératrice a, chez Hugo, l'obscur, qui semble être l'équivalent d'une matière noire, tout aussi déterminante dans son œuvre littéraire que dans son œuvre graphique. Jusqu'à lester l'une et l'autre d'une gravité inédite qui les travaille pareillement de l'intérieur. En 2013, sur France Culture, dans Les Regardeurs de Jean Deloisy, cette œuvre graphique de Victor Hugo était soumise au regard enthousiaste de l'artiste-écrivain Jean-Jacques Lebel à travers l'un des dessins les plus célèbres d'Hugo, celui que l'on a baptisé « Tête de Diable ». Les Regardeurs, « Tête de Diable », un dessin de Victor Hugo, une émission diffusée la première fois le 19 octobre 2013 sur France Culture.
Je crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
Les regardeurs.
Come and go with me.
Ils ont marqué notre sensibilité en découvrant ou commentant des chefs-d'œuvre qui depuis appartiennent à l'histoire de l'humanité. Ce sont les regardeurs. Aujourd'hui, un chef-d'œuvre de Victor Hugo, un dessin intitulé « Tête de diable » réalisé entre 1864 et 1869. Les dessins de Victor Hugo furent commentés par Charles Baudelaire, Théophile Gautier, André Masson ou encore André Breton, nos regardeurs. « Tête de diable » n'est pas un titre donné par l'auteur, mais c'est ainsi qu'on a l'habitude de qualifier ce « La vie » de Victor Hugo, réalisé sur une feuille étroite et haute de près de 40 cm. Les bords sont épargnés par l'ascension de l'encre qui, comme une fumée, paraît s'exhaler du cratère d'un volcan dont on devine le sommet en bas de la composition. Au-dessus de cette montagne fumante, une tache large, qui ressemble à la silhouette anguleuse d'un cheval, traverse toute la feuille. La vaste brume d'encre envahit le haut de la composition en s'élargissant jusqu'à atteindre les deux angles supérieurs. C'est dans la tourmente nébuleuse de cette exhalaison méphitique qu'apparaissent deux grandes cornes blanches comme réservées par l'artiste pour protéger le papier des eaux noires de cette inondation. Dans la turbulence de l'encre et de l'air, peu visible au premier regard, mais insistant ensuite, la grimace et les yeux bleus et la barbe bleue elle aussi, la bouche suggérée d'un simple trait, et ainsi la tête d'un diable apparaît sous ses cornes en les justifiant. Victor Hugo paraît être revenu sur son dessin pour à peu de traits souligner, dans les obscurités hasardeuses de sa mixture, l'apparition de sa vision, pour fixer en fait parmi d'autres plausibles celle-là, exactement, cette fantasmagorie. Les 4000 dessins que réalisa Victor Hugo manifestent la lumière, les gestes, la pensée océanique du poète qui emporte dans sa plongée psychique et l'archaïque et le moderne. Par cette immense activité, il puise dans les replis obscurs de l'humain, rejoignant les explorations nocturnes de Goya, de Rembrandt, de Piranèse ou de Rodolphe Brédin. Ainsi d'ailleurs que les fantasmagories qui firent naître sur un écran de vapeur le premier cinéma d'Athanasius Kircher et les lanternes magiques de Robertson. C'est d'un même mouvement, d'une même liberté qu'il nous entraîne vers les inventions du XXe siècle, dont il annonce la multimatérialité dans une créativité délivrée de toute règle extérieure aux nécessités de sa vision. Et cela, il l'accomplit dans cette œuvre totale qu'il installe à Guernesey, ce manoir de Hauteville, exemple absolu et précurseur, théâtre intérieur, miroir, comme dit son fils, miroir autographe de 3 étages, dont chaque détail a été pensé, rassemblé ou peint ou sculpté par l'artiste pour qu'il participe à cette œuvre d'art totale qu'il a rêvée. Ce dessin donc que nous considérons ensemble et qui appartient à Picasso est le fragment immergé d'un océan de vision qu'il ne résume pas. Ce diable cornu n'est qu'une des infinies métamorphoses d'une végétation envahissante que l'œuvre de Victor Hugo contient.
Monsieur Hugo, quand il voyage, crayonne tout ce qui le frappe. Une arête de colline, une dentelure d'horizon, une forme bizarre de nuage, un détail curieux de porte ou de fenêtre, une tour ébréchée, un vieux beffroi. Ce sont ses notes. Puis le soir à l'auberge, il repasse son trait à la plume. L'ombre, le colore, y met des vigueurs, un effet toujours hardiment choisi. Et le croquis informe, poché à la hâte sur le genou ou sur le fond d'un chapeau, souvent à travers les cahots de la voiture ou le roulis du bateau de passe, devient un dessin assez semblable à une eau forte, d'un caprice et d'un ragoût à surprendre les peintres eux-mêmes. Que de fois, lorsqu'il nous était donné d'être admis presque tous les jours, dans l'intimité de l'illustre écrivain, n'avons-nous pas suivi d'un œil émerveillé la transformation d'une tache d'encre ou de café sur une enveloppe de lettres, sur le premier bout de papier venu, en paysage, en château, en marine d'une originalité étrange, où du choc des rayons et des ombres naissait un effet inattendu, saisissant, mystérieux, et qui étonnait même les peintres de profession. tout en laissant courir les hachures négligentes, le grand poète causait comme il écrit, tantôt sublime, tantôt familier, toujours admirable. Et l'heure de se retirer venue, chacun se disputait les dessins rayés par la griffe du lion, qu'accompagnaient ordinairement quelques dédicaces aimables, latines, espagnoles ou françaises, selon le caractère du croquis et de la personne qui l'emportait. Théophile Gautier, dessin de Victor Hugo, 1863.
Jean-Jacques Lebel, vous êtes vous aussi un artiste à l'activité excessive. Vous avez créé en 1955 une revue avec André Breton, Picabia, Benjamin Perret, qui s'appelait Front Unique. Vous avez été l'auteur de ce qui est considéré comme le premier happening en Europe, L'enterrement de la chose en 1960. Vous fîtes la première anthologie de la Beat Generation. Et également, vous avez organisé des démarches d'énonciation collective, comme vous aimez le dire, avec Polyphonix, par exemple, ce festival international de poésie sonore que vous avez co-créé. Vous avez fait de très nombreuses expositions, dont deux sur Victor Hugo, une qui a été une révélation pour beaucoup, et pour moi en particulier, en 1993, et une autre en 2000, je crois, à Paris. Mais vous avez fait également des expositions, Francis Picabia, Picasso érotique, et en ce moment même, vous êtes l'organisateur d'une exposition, Kerouac Ginsberg Burroughs, qui se trouve donc au centre Pompidou, Metz. Vous avez continuellement refusé de catégoriser toutes ces activités que vous considérez toutes relevées de votre pratique artistique et toutes d'un même processus d'interrogation obstinée sur l'énigme de l'œuvre, l'énigme de l'art. Vous avez accepté de commenter ce dessin avec moi. Bonjour Jean-Jacques Lebel.
Bonjour.
Nous allons être soutenus dans notre propos par les commentaires savants de Gérard Audinet, directeur du musée de la maison de Victor Hugo à Paris, où vous pouvez admirer l'œuvre dont nous parlons aujourd'hui au sein d'une exposition intitulée « La cime du rêve, Victor Hugo et le surréalisme » qui ouvrira ses portes à partir du 17 octobre. Écoutons Gérard Audinet, justement, s'entretenir avec Sandra Adam.
Pour t'écrire, on a une tache d'encre, c'est déjà trop dire. On a plutôt deux taches d'encre, deux, trois taches d'encre. On a une tache d'encre très, 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 très dense, plutôt en bas du dessin. Et puis ça va se diluant de façon plus vaporeuse en remontant vers le haut du dessin. Et au milieu de cette partie plus claire, on voit apparaître effectivement une tête assez grotesque de diable avec deux sortes de bonnets d'âne ou cornes du diable fourchues qui sont faites en réserve dans l'encre, voilà, qui se détache bien, bien blanche, alors que le visage du diable, lui, est un peu perdu dans la tache d'encre. Face à ce type de dessin, on a toujours du mal à reconstituer sa genèse. Quoi est fait en premier, quoi est fait en dernier? Là, le fait que les cornes du diable apparaissent en réserve, donc dessinées, la tête du diable a l'air d'être un peu recouverte, donc on a du mal à décider ce qui est le premier, finalement, de la tâche ou du dessin. Et cette ambiguïté, bien, elle nous place au cœur de la problématique de ce dessin, qui est particulièrement le regard que les surréalistes ont porté sur ce type d'œuvre. Cette œuvre a un destin particulier. Elle a été achetée par Picasso et elle a été exposée en 1936 au MoMA, au Museum of Modern Art à New York, dans cette célèbre et importante exposition Fantastic Art Dada Surrealism. Elle était dans la salle des précurseurs. Alors elle a été commentée par un surréaliste et non des moindres, malheureusement pas André Breton, mais André Masson, qui dit que pour lui c'est une œuvre importante, capitale. Et il a cette très belle formule, il dit c'est une tâche prolongée. Qu'est-ce que c'est que cette prolongement de tâche? C'est un peu bizarre, une tâche, c'est immédiat une tâche. Et donc l'idée de prolonger une tâche est assez savoureuse. Mais ça dit bien, disons, la double détente de ce type d'œuvre graphique, avec l'ambiguïté. Savoir quel est le rôle de la tâche dans ce type d'œuvre. Donc finalement, quel est le rôle du hasard, de l'aléatoire, de ce qu'on ne maîtrise pas consciemment, donc de ce qui va être l'automatisme, considéré comme automatisme par les surréalistes, et du travail qui va intervenir Après, qui va donc prolonger la tâche pour en faire émerger une figure de diable ou un château ou un paysage, comme dans d'autres La vie de Victor Hugo.
Jean-Jacques Lebel, cette tâche prolongée qui est évoquée par Gérard Audinet et qui est d'abord évoquée évidemment par André Masson, elle signifie probablement quelque chose comme l'invention d'une technique. C'est un des aspects qui vous a retenu chez Victor Hugo ?
Certainement. Je pense qu'il y a un point aveugle dans l'histoire de l'art, en général, et chez Victor Hugo, par rapport à Victor Hugo en particulier, c'est que les savants, ou les sujets supposés savoir, ça ne veut pas dire qu'ils savent, qu'ils sont supposés savoir, oublient de regarder comment c'est fabriqué. Et si on regarde la vie particulièrement, on peut faire quelques remarques techniques qui éclairent complètement le contenu. Alors, d'abord, Hugo, contrairement aux artistes peintres académiques, ne peignait pas sur un chevalet avec le papier ou le carton posé verticalement. Il peignait comme un écrivain, c'est-à-dire horizontalement sur une table. Ensuite, il prenait ses feuilles, dont celle-ci, il la trempait dans un seau d'eau posé à côté de lui, ce qui lui permettait de replacer la feuille sur un morceau de bois et d'envoyer de l'encre. D'où les irisations qu'on voit, qui sont sublimes, et les deux cornes qu'évoquait Théophile Gautier, probablement, il a posé un autre morceau de papier dessus pour créer cette réserve.
Un pochoir, en fait,
une sorte, si vous regardez
à l'envers.
Exactement. Si vous regardez le bas, vous voyez qu'il y a des coulures. Or, il a pris son papier, et il l'a fait couler vers la gauche et vers la droite, les taches noires en dessous. Et c'est ensuite, en interprétant ces taches, qu'il a trafiqué un peu. On voit des traces de pinceau en haut à droite et un peu à gauche. C'est ce mélange de l'aquatinte, de l'eau qui travaille le papier, de la main de l'artiste et du pinceau qui donne quelque chose de complètement nouveau, qui est en effet automatique. Et alors, le bas du visage du démon, enfin, démon entre guillemets, parce que c'est peut-être un ange,
oui.
Un ange cornu.
Ou un faune.
Ou un faune. En tout cas, il y a une présence, aussi bien chevaline qu'humaine. La bouche, elle a été rehaussée de gouache blanche. Et c'est donc, il invente une espèce de technique hybride qui relève de la peinture, mais d'une peinture, comme on pourrait dire, non professionnelle. Il faut dire que Hugo n'a jamais appris à peindre, d'où son génie. Il a eu comme professeur, qui lui donnait quelques petits conseils, le grand maître du Lavis, qui est Constantin Guisse, grand génie du Lavis, de l'utilisation du liquide, et un peu de Lacroix. Et puis c'est tout. Le reste, il a regardé beaucoup Goya, il a regardé beaucoup d'autres choses, et il invente au fur et à mesure, et puisqu'il ne sait pas peindre, il est obligé d'inventer.
Mais Jean-Jacques Lebel, cette liberté que vous voyez dans le travail de Victor Hugo, qui est due au fond au fait de se soumettre beaucoup plus à sa vision qu'à aucun principe académique, il est totalement...
Il ne les connaît pas.
Il ne les connaît pas, il en est totalement indépendant.
Voilà, mais c'est parce que la perspective, par exemple,
oui.
C'est génial.
Oui, mais ça lui permet d'inventer un ensemble de techniques qui, je sais, vous touche particulièrement. Au fond, vous le considérez comme un grand précurseur grâce à cette liberté.
Absolument. Un inventeur et un visionnaire. Non seulement, par exemple, en politique, c'est le premier qui a parlé des États généraux de l'Europe. Il faut quand même le dire. Il était un siècle avant son temps. Mais il est évident qu'il pratique le frottage, le collage... l'impression de feuilles, de pièces de monnaie. Il retrouve la décalcomanie que les surréalistes vont reprendre à leur tour après. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est le contraste sublime, vraiment sublime, qu'il y a entre sa peinture, son travail pictural et ses écrits. Parce que ses écrits, c'est pas... Victor Hugo est une usine. Il est même un ensemble de plusieurs usines qui fabriquent du texte dramatique, du texte poétique, de ceci, de cela. Il n'expérimente pratiquement pas dans l'écriture. C'est un grand classique. Par contre, en peinture, c'est son laboratoire intime. Intime. Et situationniste avant la lettre, il n'a jamais voulu exposer ses peintures. La première exposition Victor Hugo a eu lieu 3 ans après sa mort. C'est son légataire universel, Paul Meurice, qui l'a organisé. C'est la vie, il les donnait. C'est complètement situs. Hein. Il les donnait aux femmes qu'il voulait séduire. Qu'est-ce qu'on veut de plus?
Est-ce que ce n'est pas pour relancer son imaginaire qu'il faisait cette sorte de récréation, qu'il considérait comme une récréation? Mais il y a un moment, d'ailleurs, je crois, où il l'espère, où il pense, où il rêve peut-être de devenir une sorte de second Rembrandt. Non?
Vous croyez ça?
Non, je crois que ça a dû lui traverser l'esprit, qu'il était doué quand même d'une capacité fantastique.
Il n'était pas fou à ce point-là. Non, je pense que... récréation, je ne dirais pas ça. Je dirais un exercice spirituel. Oui. Une sorte de prière où il s'adresse directement à l'invisible, à ce qui hante son inconscient.
Qui est probablement lui-même.
Bien sûr. Une sorte de mise en contact direct avec son inconscient, un exercice spirituel de méditation. Il médite sur les tâches, il plonge dans les tâches pour en sortir des visions extraordinaires. C'est le côté expérimental qui me touche le plus. Et d'ailleurs, le texte d'André Masson... André Masson était voisin de Victor Hugo. Il habitait rue de Sévigné et Victor Hugo sur la place.
Avec un petit décalage temporel.
Oui, le temps, ça n'existe pas pour nous, les artistes. On est au Moyen-Âge ou dans les temps futurs, tous en même temps.
Est-ce que vous pouvez revenir, Jean-Jacques Lebel, sur non seulement la technique de Zessin, mais les autres techniques de parce que vous parlez du frottis, je sais qu'on le retrouvera chez Max Ernst.
Oui.
Peut-être pourrait-on presque parler de dripping par moment.
Pourquoi presque? C'est certain. Il laisse, il ne corrige pas les drippings. Il en fait...
Alors par dripping, qu'est-ce que vous voulez dire exactement?
Je veux dire que comme sa feuille est mouillée, trempée, il y jette de l'encre. Et même Théophile Gautier, témoin, dit qu'il jette sa tasse de café dessus. En fait, c'est de la peinture-action.
Oui, la peinture-action, vous faites allusion à la peinture américaine,
oui,
celle des grands, lyriques comme Jackson Pollock, par exemple.
Voilà. Bien entendu. Et alors, il y a d'autres exemples qui sont dans les expositions que j'ai organisées à Paris et à Madrid, où, par exemple, les fameuses collines... il prend un bout de carton, la feuille est mouillée, il trempe le carton verticalement dans de l'encre et il peint avec comme si on peignait avec cette partie de sa main, vous voyez,
oui.
Et il fait des scansions sur le papier. À d'autres moments, il fait de la décalcomanie carrément. Il organise le chaos. C'est-à-dire qu'il reconnaît le chaos comme l'élément fondateur de sa pensée, de sa pulsion picturale, mais il l'organise, et ce qui est génial chez lui, c'est qu'il sait quand s'arrêter, ce que peu de peintres savent. Les noirs sont d'une force extraordinaire, les enfumages de noirs, les dégoulinages sont très contrôlés, et les réserves sont extraordinaires, parce que c'est dans les réserves qu'on retrouve la notion d'espace, puisqu'il n'utilise pratiquement pas la perspective, il se trompe quand il veut, il ne sait pas.
Mais au fond, il ne le cherche pas du tout, les accidents sont... intentionnel d'une certaine façon.
Oui.
Je me souviens avoir lu qu'il déformait sa plume pour pouvoir avoir des éclaboussures d'encre.
Absolument,
qu'il travaillait par moment avec la barbe de
la
plume et non pas avec
ou ses doigts et ses ongles. Et Théophile Gautier dit même qu'il attaquait le papier avec des allumettes brûlées. Et on trouve des morceaux de sulfure dans le papier et des taches de café. C'est-à-dire qu'il bombardait sa feuille et il faisait subir les derniers outrages avec ses ongles, avec des allumettes, et finalement il foutait du café dessus en disant « voilà, ça y est, c'est terminé ». Il y a une espèce de bagarre physique et métaphysique avec la peinture qui est magistrale et qui fait penser un petit peu quand même à Antaille, puisqu'on vient de voir une très belle exposition Antaille à Beaubourg, n'est-ce pas ? Je crois que, pas seulement la peinture, mais l'attitude pratique de Hugo envers sa peinture a influencé énormément les surréalistes et au-delà.
Je me souviens d'Apollinaire parlant dans son texte sur les peintres cubistes, et il dit on peut peindre avec ce qu'on voudra, avec des pipes, avec des timbres-poste, avec des candélabres, des morceaux de toile cirée, des faux cols, du papier peint, des journaux. On a l'impression que là, Apollinaire c'est 1912, mais là je pense qu'on est déjà dans cet univers.
Absolument, c'est tout à fait vrai. Il n'y a pas de solution de continuité entre Hugo et Apollinaire, l'inventeur de la poésie contemporaine. Mais pour en revenir au personnage Hugo, à la pensée Hugo, on pourrait dire que son influence sur les surréalistes est telle que Breton avait dans son atelier deux Lavis de Victor Hugo, dont un qui est Mallarméen en diable, mais avant Mallarmé, c'est un tout petit carré de papier avec une simple ligne, n'est-ce pas ? Et au-dessus de la ligne, il y a marqué Aube, A-U-B-E. Ça, au lieu de dessiner l'aube, il met le mot. Plus conceptuel que ça, on meurt.
Vous pouvez dire qu'il l'a intégré dans sa vie la plus privée.
Parce qu'il a appelé sa fille Aube.
En effet.
Donc vous voyez ce que je veux dire. C'est Hugo a habité les surréalistes. Ils en ont fait un surréaliste.
Mais entre ce moment où le surréalisme découvre Hugo, et nous en parlerons certainement au cours de l'émission, et le moment où il réalise ses grands tableaux, 1864, et sa première exposition, est-ce qu'il y a eu des artistes qui se sont attachés à ce travail
Très peu.
Il y a eu un grand intervalle de...
Il ne les montrait pas.
Oui.
Il ne les montrait pas. Et comme l'histoire de l'art est toujours à la remorque du marché de l'art, hélas, c'est-à-dire toujours ramené à son plus bas et vulgaire commun dénominateur, puisque il y avait très peu de Victor Hugo dans les musées, étant donné qu'il a légué tout ça à la France, c'est aller à la Bibliothèque nationale, au lieu d'aller dans un musée. Et comme la plupart des gens qui travaillent dans les musées, je ne parle pas de vous, évidemment, ni de nos amis, mais il y en a quand même d'autres qui sont complètement aveugles. La preuve, c'est que des chefs-d'œuvre de Victor Hugo ont été estampillés Bibliothèque nationale au beau milieu du dessin par un clerc aveugle qui regardait même pas ce qu'il faisait comme une machine.
Bibliothèque nationale qui a reçu pratiquement
3000 dessins.
3000 dessins, c'est
mais
considérable.
Il y en a encore 3000 qui le catalogue raisonné va bientôt j'espère paraître.
On se rapproche de 6000 dessins,
voilà,
ce qui montre une intensité dans le travail fabuleux. C'est pas du tout, on se rencontre rien que par la quantité.
Mais
c'est
oui.
Pas du tout un passe-temps, c'est une obsession.
Absolument, c'est quelque chose de quotidien. C'est une méditation quotidienne, qu'il faisait chaque matin avant de prendre son café. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. You don't owe no money, get used.
respect. You feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. His shadow is cast wherever he stands. Stacks of green paper in his red right hand.
Poète, voici la loi mystérieuse. Aller au-delà. Extravaguer. Ce que les pédants nomment caprice, les imbéciles des raisons, les ignorants hallucinations. Ce qui s'appelait jadis fureur sacrée, ce qui s'appelle aujourd'hui, selon que c'est l'un ou l'autre versant du rêve, mélancolie ou fantaisie, cet état singulier de l'esprit qui, persistant chez tous les poètes, a maintenu comme des réalités, des abstractions symboliques, la lyre, la muse, le trépied, sans cesse invoquées ou évoquées, cette ouverture étrange aux souffles inconnus est nécessaire à la vie profonde de l'art. L'art respire volontiers l'air irrespirable. Supprimer cela, c'est fermer la communication avec l'infini. La pensée du poète doit être de plein pied avec l'horizon extra-humain.
Jean-Jacques Lebel, nous entendons dans ce très beau texte du Promontoire du Songe, qui a été d'ailleurs publié extrêmement tard, parce que c'était fait partie des textes qui ont été oubliés et sortis vers 1937, je crois, à peu près, et qui ont été très fascinants, je pense, pour les artistes à ce moment-là. On ressent dans ce texte un intérêt pour la vie psychique la plus secrète, aussi bien celle des rêves que celle que l'on atteint par une sorte d'hallucination provoquée. Hallucination provoquée, est-ce que c'est quelque chose que recherchait effectivement Victor Hugo, est-ce que c'était un explorateur de son propre psychisme au-delà des moyens ordinaires de la réflexion?
Il n'y a aucun doute là-dessus. Dans un livre posthume qui s'appelle « Choses vues », on s'est rendu compte qu'il avait écrit des récits de rêves avant quiconque, avant Freud. C'est un très grand précurseur. Il est évident que ce qu'il cherche, c'est de se dépasser lui-même, de se perdre, de plonger dans le dessin. C'est toujours de la peinture sur papier. C'est toujours une aventure qui commence par le visible et qui se termine dans l'invisible, toujours. C'est quelqu'un qui est sous l'emprise totale de son inconscient. Et c'est pour ça que aujourd'hui encore, c'est la vie, ont une telle force que quelquefois on a du mal à soutenir leur regard. Car il y a les regardeurs, mais il y a aussi le regard de l'œuvre qui regarde le regardeur.
Tout à fait.
Et par exemple, il a beaucoup joué sur la permutabilité. C'est-à-dire que, puisqu'il travaillait à plat, horizontalement, il pouvait changer le haut et le bas à l'infini. Et il y a des images qui sont lisibles
dans les deux sens.
Dans les deux sens ou dans les quatre sens. C'est-à-dire qu'il casse tous les académismes.
C'est quelque chose qu'on retrouvera dans l'art moderne, mais sous l'influence de l'art polynésien, et pas du tout, et pas du tout à travers...
Les boucliers asthmates,
exactement.
Évidemment, là aussi, c'est la métanoïa, n'est-ce pas?
Qu'est-ce que vous voulez dire par métanoïa?
La plongée dans l'inconscient sans filet, sans savoir où on va.
C'est une sorte d'hallucination que l'on provoque soi-même. C'est
une sorte de... On casse le surmoi, on délaisse le surmoi, on se laisse aller à plonger là où on ne sait pas où on va. Et l'art, c'est ça. Sinon, quel intérêt ça a, l'art?
Ce qui est intéressant dans le texte de Promontoire du Songe et dans la suite de ce texte dont on a entendu un fragment, c'est que à la fois, il dit se livrer à cet exercice de la plongée dans son propre inconscient, de la plongée dans le rêve, de l'écoute libre des forces à l'intérieur de nous-mêmes. Et en même temps, il dit, mais attention, faites attention, c'est dangereux. Donc il y a une sorte de conscience, pas pour lui-même, mais presque comme s'il l'annonçait aux autres, méfiez-vous.
Mais c'est ce que dit Michaud aussi, lui.
Exactement.
Qui a tellement fait usage des substances hallucinogènes.
Et de l'encre.
Et de l'encre, et du papier. Évidemment que c'est dangereux. C'est pas une plaisanterie, l'inconscient, n'est-ce pas? Puisque en parlant d'Artaud, n'est-ce pas, faire surgir ces autres, les autres que nous avons tous et toutes en nous, ça peut être dangereux. La société appelle ça de la folie. Nous, on appelle ça de l'inspiration. Mais c'est quand même dangereux. C'est pas à mettre entre toutes les mains, si j'ose dire. Il faut être très solidement conscient des limites pour pouvoir les dépasser, ces limites.
Vous parlez d'Henri Michaud, et je pense à ses expériences sur la mescaline, par exemple. Est-ce que, par hasard, Victor Hugo aurait lui aussi été intéressé par ces misérables miracles ?
Je n'en doute pas. Il y a à la maison de Victor Hugo un champignon géant, sur une magnifique image d'ailleurs, qui est une Amanita muscaria, l'Amanita du mouche, et qui, en petite dose, plongée dans un verre d'eau, donne des hallucinations. Donc, pourquoi aurait-il dessiné ce champignon gigantesque, sinon pour lui rendre hommage, et rendre hommage à ses pouvoirs. Il est évident qu'il a essayé tout ça. Après tout, c'est pas seulement Baudelaire et Théophile Gautier qui appartenaient au club des hachichins.
Non, bien sûr.
N'est-ce pas ?
Bien sûr.
Qu'on appartenait ou non au club, c'est une autre question.
Vous considérez que cette pratique chez Victor Hugo, enfin là on parle d'une pratique qui peut-être a été marginale, mais cette pratique globale comme ça de l'hallucination est une sorte d'atelier psychique.
Absolument. Sa pratique du spiritisme. Il fait parler les morts avec Madame de Girardin. On pourrait dire que c'est un symptôme de schizophrénie grave, mais en même temps pour lui c'est un jeu. Une façon d'expérimenter ces autres, le spiritisme. Faire parler Léonard de Vinci, travailler sous la dictature et la dictée de Dante, c'est pas mal, hein. Mais c'est toujours en alexandrin, n'est-ce pas ? Il perd pas de son sens de l'humour, quand même.
Je crois que le spiritisme chez Hugo était, vous, en tout cas, vous l'avez vu comme ça, me semble-t-il, comme une sorte d'expérience collective,
oui.
Une sorte d'expérience d'énonciation.
Oui.
Qu'est-ce
un,
que vous
un
voulez?
Un agencement collectif d'énonciation. C'est-à-dire, c'est l'Athanor des alchimistes, ou les cadavres exquis des surréalistes. L'auteur explose, et c'est la pensée collective qui produit l'œuvre.
C'est ça.
Voilà.
Donc ça permet de briser la question de l'ego
d'aller
dans la fabrication au-delà. Et d'aller bien au-delà.
D'excéder les limites de l'ego, voilà. Ce qui est le grand problème de tout le monde,
oui.
Au fond.
Alors,
pas seulement des artistes.
Au bout d'un certain temps, il s'est lassé de ces jeux, qui étaient donc des jeux sérieux, si je vous entends
bien.
Il est
pratiqué quotidiennement, quand même. Hein.
Oui, il y a une fin. D'ailleurs, quelque chose qui aura beaucoup plus tard fasciné, de la même façon, peut-être plutôt dans les rêves, les surréalistes.
Et Freud.
Et Freud.
Et toute la psychanalyse est quand même fondée sur le rêve. Faut pas l'oublier. Sur l'articulation dans le rêve d'événements psychiques qui ne trouvent pas d'autres possibilités de s'exprimer.
Quand il travaillait sur ces agencements collectifs d'énonciation, son fils, Charles, était souvent l'instrument médiumnique.
Oui.
Avec une certaine douleur, semble-t-il.
Ben, c'est-à-dire qu'il avait du mal à exister à
oui.
L'ombre de ce génie. Et il était quand même commis d'office à partager ce que Guattari, beaucoup plus tard, appellera la chaosmose de son père. Guattari a forgé ce néologisme qui est magnifique, le chaos et l'osmose. Entrer en osmose avec le grand chaos de l'univers. N'est-ce pas ? Pas seulement le chaos intérieur de chacun et de chacune, mais le chaos universel de l'humanité.
Ce qui est étrange,
et des planètes.
Cette fascination pour ce chaos universel est un trait plus général, peut-être, du romantisme
oh,
de
oui,
l'époque.
Oui, oui.
Hein. Et il y a trois époques, me semble-t-il, dans le travail de Victor Hugo. Il y a un grand Victor Hugo, anthropologue de lui-même, explorateur de lui-même, qui est donc incroyablement archaïque. Il est au plus proche des sources de l'humain.
Mmh.
Il y a un Hugo qui est tout à fait en phase avec son temps, qui est le grand Hugo romantique et qui, dans lequel il y a l'inquiétude de l'éclipse du divin, il y a donc cette fascination pour la puissance de la nature, la géologie et la mer, etc. Et puis il y a le Hugo précurseur. Il arrive à être dans trois...
Et le Hugo social, faut pas oublier.
Alors, évidemment...
Il a été membre du Parlement. Il n'était pas dans les nuages, il était aussi dans le champ social, à tous les instants. D'où toutes les contradictions, n'est-ce pas, du romantisme, en effet.
Écoutons à propos du diable et du romantisme Gérard Rodinet s'entretenir avec Sandra Adam.
Ce tableau, il y a une thématique du diable qu'on retrouve à maintes reprises quand on regarde les dessins de Victor Hugo. Notamment, les diables, les succubes, c'est quelque chose qui revient dans sa pratique. Et j'avais à l'esprit deux écrits, et vous allez me dire si je fais erreur, si je les mets en parallèle, qui étaient L'Esprit des bois et puis ce poème des sorcières où justement on parle de diable. Pourquoi le diable dans ce tableau ?
Alors, je crois qu'il y a des explications diverses, complexes. C'est un thème romantique, le diable, les esprits, les succubes. Le romantisme sort quand même beaucoup du roman noir, donc du roman gothique, donc un peu sataniste. Il y a beaucoup d'esprits, une ambiance aussi un peu shakespearienne, des sorcières partout. Puis le diable, c'est toujours un peu le grotesque. Donc le diable, le monstre, sont des figures récurrentes chez Hugo. C'est l'une des jambes de sa poétique. Hein, ça marche sur le sublime et sur le grotesque. La sorcière va être aussi un thème aussi relayé par Michelet, bien sûr. Ouvrage que Victor Hugo lit sans doute, parce qu'il a une grande estime, une certaine amitié pour Michelet. Il va y revenir aussi. Il y a toute une série de dessins qu'on appelle le poème de la sorcière. Alors, il n'y a pas vraiment question de diable, sauf que les diables, ce sont les juges et les tortionnaires qui jouent ce rôle de façon un peu ironique, puisque Victor Hugo ne nous décrit jamais l'image de la sorcière, il décrit uniquement celle des juges et des tortionnaires. Et on a une série de trognes absolument ahurissantes. Et là, on rentre dans une série de dessins qui est aussi un discours contre la peine de mort.
Est-ce qu'on connaît ses sources d'inspiration dans la peinture ?
Je pensais qu'il avait des souvenirs d'enfance du côté de la peinture espagnole, de Goya. Il avait aussi un goût pour Rembrandt. Et puis, il y a ces peintres, donc un représentant un peu oublié aujourd'hui de l'école romantique, mais qui en son temps avait presque été présenté comme un rival de Delacroix, qui est Louis Boulanger. Et puis, plus tard, il y a un peintre qu'il a beaucoup apprécié, qui est François-Nicolas Chifflard.
I am the Black Crow King. Mm-hmm. I am the Black Crow King, the keeper of the nut and comb. A bam, 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 bam.
Bam, 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 bam.
All the hammers are a-talking.
The hammers are a-talking.
All the nails are singing.
Nails are singing.
So sweet and
so
low.
Deep and low.
You can hear it in the valley where live the lame and the blind. They climb my hill out of its belly. Lay with me, black boots shine.
Jean-Jacques Lebel, on s'aperçoit que lorsque Victor Hugo peint, il a quand même en mémoire des admirations. Goya, Rembrandt probablement, et peut-être d'autres. Que pouvez-vous nous dire ?
Goya, c'est évident, la période noire, les peintures noires, sur fond noir. Hugo est un peintre nocturne,
oui.
Totalement nocturne. Rembrandt, même chose.
Je préciserai simplement, Jean-Jacques Lebel, quand on parle de nocturne, ce n'est pas la nuit au sens du contraire
non,
du jour.
C'est la nuit universelle.
Voilà. C'est la nuit de l'âme, enfin, au sens évidemment. Le plus mystique, d'ailleurs.
Mais évidemment, Hugo a des côtés mystiques, il n'y a aucun doute là-dessus. Rembrandt, c'est pareil, c'est le clair-obscur, n'est-ce pas ? Le fond indéfinissable qui où trempe où et tremble le regard, qui piège le regard dans un infini au-delà de l'horizon. C'est évident que la plupart des grands peintres ont toujours essayé de se débarrasser de leur routine. Il n'y a rien de plus triste que les artistes qui deviennent les industriels, qui se copient eux-mêmes à l'infini, qui produisent des produits de consommation pour le marché.
Il y a très peu de répétitions d'ailleurs dans
chez Hugo.
Chez Hugo. Sauf les châteaux peut-être.
Oui, les châteaux, mais c'est des châteaux, c'est l'exil.
Les bourgs,
c'est, ouais. C'est l'obsession de l'exil chez lui, ouais. N'est-ce pas? Et de l'enfance, parce qu'avec son père sur le Rhin, il visitait beaucoup ça. Mais ce qui est extraordinaire, je reviens sur cette notion de chaosmos, n'est-ce pas, qui l'habite et qui impulse sa pensée poétique et picturale. Il a une vraie pensée picturale. Hugo, évidemment, a beaucoup regardé de la peinture, il a énormément médité sur l'idée même de paysage, d'écoulement des fleuves et de l'océan. Il y a des passages méditatifs sublimes du haut du Mont-Saint-Michel, où il regarde la marée qui rentre et qui sort, et qui fait de la peinture dans le sable. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de l'avis de Victor Hugo qui viennent de là, en plongée, n'est-ce pas? Ça crée des îlots dans le sable, ça crée des formes, ça crée des paysages intérieurs. L'océan travaille. L'océan travaille, comme disait Georges Bataille.
C'est la nature au travail qui devient inspirante, et il y a une équivalence entre le dessin de Victor Hugo, la technique de Victor Hugo et la technique générale de la nature. Il est une autre nature, en fait.
Il est peint par la nature.
Voilà.
C'est la nature qui le peint. Et le souffle, le vent, la lumière, l'océan, les marées le peignent. Et il se laisse faire. Et c'est en ça qu'il jouit en peignant. Et je crois que c'est une énorme leçon pour les artistes contemporains qui ont que trop tendance à se soumettre aux lois du marché, c'est-à-dire aux lois du crétinisme général. Et ils oublient que sans laboratoire, il n'y a rien. Il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de poésie, il n'y a pas de peinture, il n'y a rien. Et qu'il faut en revenir à cette notion fondamentale du laboratoire qui est le corps humain, qui est la pensée humaine.
C'est quelque chose que l'on a, cette façon de travailler avec les forces de la nature. C'est quelque chose que l'on a dans l'art contemporain avec des grands artistes comme Giuseppe Pennone et qui fait travailler le fleuve pour lui, fait travailler l'arbre pour lui. Mais déjà dans la peinture japonaise, on a des
très
moments
juste.
Comme cela où il y a les pattes d'un gallinacé qui court sur le... C'est Okuzai. Donc c'est intéressant. Est-ce qu'il y a une relation?
Ah mais absolument. Okuzai était justement un peintre qui aurait pu tomber dans l'industriel parce qu'il avait beaucoup de succès. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris lui aussi sa longue morceau de papier de riz, n'est-ce pas, qu'il a trempé dans de l'eau, comme par hasard. Il a attrapé deux poulets, il a plongé les pattes des poulets dans de l'encre qu'il avait préparée, et il a laissé les poulets se balader sur le papier. Et ça a donné une peinture extraordinaire.
Qui s'appelle « Feuilles d'érable sur rivière d'automne ».
Voilà. N'est-ce pas? Le titre, c'est dommage d'ailleurs, parce qu'on peut y voir beaucoup plus que ça. Eh bien, Hugo aurait très bien pu signer cela. Il l'a fait avec des feuilles, avec des pièces de monnaie.
La Chine l'a intéressé,
la pensée
chinoise et le Japon. Il y avait une...
Vous parliez des environnements.
Qu'est-ce qu'il a connu de cela?
Il a rêvé surtout. Il a connu cela par les livres.
Mais il a vu des estampes japonaises.
Oui, une japonaise, bien sûr, il en a possédé. Mais regardez, à la maison de Victor Hugo, il y a le fameux salon qu'il a inventé de toutes pièces pour Juliette Drouet, qui a été transporté là. On pourrait dire, en hommage à notre très cher ami Alan Caprow, que Hugo a inventé l'environnement. Parce que quand il prend des morceaux de chaises italiennes de la Renaissance cassées, des plats chinois, des tissus japonais, des bocs à bière belges, et qu'il mélange le tout pour faire un environnement, c'est une installation, je suis désolé, faut le dire.
Oui, c'est une installation faite avec l'aide de la Fée Bric-à-Brac, comme disait...
Voilà.
Sa femme disait ça. C'est sa femme, voilà.
Sa femme disait, il revient toujours avec les poches pleines de cochonneries, c'est la Fée Bric-à-Brac. Mmh. Ben vive la fée Bric-à-Brac.
Mais également avec une sorte de chasse au coffre, c'est-à-dire à la brocante, au coffre abandonné, et une récupération permanente avant le nouveau réalisme de ce que peut être le délaissé de l'humanité qui lui a servi à créer
résidus,
son palais.
Exactement. Et il hantait les marchés aux puces de Guernesey et de Londres et de Bruxelles. exactement comme nous aujourd'hui.
Oui, comme vous le faites, comme vous l'avez fait aussi. Avec André Breton, comme nous le faisons. Mais jusqu'à, je me souviens qu'il était question de jusqu'à 60 coffres en 2 ou 3 ans rassemblés. Donc c'est une obsession, véritablement.
Oui. C'est un grand fabricant.
Pourquoi et comment est-ce que Breton s'est intéressé à Victor Hugo et a regardé Victor Hugo, ce qui n'était pas joué d'avance du tout? On a oublié qu'à l'époque où le surréalisme se constitue, la figure d'Hugo est plutôt dans une sorte de traversée du désert et a tout pour déplaire aux jeunes surréalistes. À cette époque-là, Hugo, c'est une vieille barbe de la Troisième République.